Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes le 22 février 2019 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes 2019. Je suis Fendoel et je suis accompagné par Astien. Bonjour Astien.
Bonjour Fendoel.
Et nous accueillons François Descamps. Bonjour François.
Salut Fendoel. Salut Astien.
Salut François.
Nous le recevons car il travaille chez Hacking Games, c'est ça qu'on peut dire ?
C'est ça qu'on peut dire, je travaille, ouais. Il y a du boulot.
Il y a du boulot. Ben justement, comment se passe ce Cannes ?
Ben c'est le premier, donc déjà il se passe de manière assez effrénée parce que on découvre tout, on découvre le lieu, on découvre l'espace. Découvre un peu les gens. SN, je l'avais fait. Enfin, nous, on vient de Bruxelles, hein, donc évidemment, SN, c'est 2 heures de route sans forcer. Cannes, oui. C'est 12 heures, donc bizarrement, on est proche culturellement, mais on est très loin de Cannes. Et donc, moi, en tant que non-employé de ludique, j'allais à SN. Et puis bah, ici, donc, je découvre les lieux, je découvre la ville, je découvre les gens. J'ai le bonheur de ne parler que français. Ça fait beaucoup de bien à mon petit cerveau. Et puis oui, bah, comme j'ai pris mes responsabilités professionnelles il y a moins de 6 mois, bah, c'est un peu ouais, c'est la découverte effrénée d'un événement où il y a rien qui va et puis tout va en même temps un peu. Donc il faut que jeunesse se fasse dans mon rôle aussi, quoi.
Alors on va te faire participer au fil rouge, c'est-à-dire que c'est des questions qu'on pose à chaque invité.
Ok.
Du coup, pour toi, Cannes, c'est plutôt jeu ou cinéma?
Ça a été cinéma pendant longtemps, mais là, je pense que pour quelques années, ça va être jeu, et ça me plaît assez bien, en effet.
C'est plutôt bière ou champagne?
Je viens d'où? Je viens de Bruxelles, c'est la bière, à 2 milliards de pourcents.
C'est plutôt camping ou Martinez?
Ah non, camping, c'est plus drôle.
C'est plus drôle. C'est plutôt off ou dodo?
J'aimerais bien que ce soit plus off, même si ça, on l'a déjà fait un peu, mais ouais, on essaye de faire du dodo quand même. Mais à partir de samedi, ça va être, on dort plus, à mon avis.
Oui, puis le off, ça va bien avec la bière en général.
Ouais, elle est bonne.
C'est plutôt salon ou festival ?
Je préfère festival.
Pourquoi ce nom plutôt que salon ?
Je sais pas, c'est plus, ça fait plus festif déjà rien qu'à l'origine. Il y a ce côté plus divertissant et plus humain. C'est encore une fois, enfin ça là, c'est l'ADN d'Acting Games, je le redirai peut-être, mais c'est le côté humain, le côté partage. Donc le festival rend plus ça qu'un côté salon où on a plus ce côté de démonstration et de personnages en cire qui attendent le début du mouvement.
Et du coup, notre dernière question, c'est plutôt pro ou perso? Même s'il y a 12 heures de route, hein, on a bien compris.
Je découvre en pro, je crois que je préfère encore un peu le perso parce que j'ai ce côté pas le stress quand je suis en perso sur un salon. J'étais à Rouen il n'y a pas longtemps et c'était très, très détendant d'y aller sans ma casquette Acting Games. Mais oui, le pro va... Au plus je vais m'y faire, au plus ça sera fun à mon avis.
On va passer maintenant à l'interview. Donc, Acting Game est un éditeur.
Ouais.
Un éditeur de jeux de société qui date de quelle année ? Ça a été fondé en...
C'est 2014 à la louche. Hein. Ça a été fondé en solo par Thibaut Quintance qui se revenait d'un tour du monde avec des jeux de société dans son sac à dos. Donc, il allait en Chine, au Kyrgyzstan, un peu partout. Et il jouait avec les gens, simplement. C'est toujours le côté rencontrer les gens à travers le jeu. Il parlait pas leur langue, mais il arrivait à leur expliquer comment ça se passait. Parfois, il jouait à leur propre jeu, à eux, et donc il comprenait comment eux jouaient, parce que, ben, factuellement, il n'y a pas vraiment de société qui n'a sans jeu. Donc, il comprenait comment eux faisaient. Et puis, ben, à son retour, c'est un univers où il avait déjà eu de l'expérience un peu avant de partir, où il a repris de l'expérience, évidemment. Et puis là, ben, maintenant, il a fondé Acting Games tout en conservant des activités chez BlackRock, puisqu'il est associé dans la grosse structure BlackRock Games, donc il fait un peu les deux, même s'il est beaucoup chez BlackRock et que nous, on fait un peu le travail journalier.
Et toi, ton travail chez Acting Games, précisément, c'est t'occuper de l'événement, c'est...
Nous, on est deux chez Acting Games, hein, finalement, donc au-delà de Thibaut qui est chef et qui n'a pas énormément de temps à mettre là-dedans, vu ses responsabilités, il y a Mathieu, mon collègue, qui fait de l'édition pure quasiment, et puis moi qui fais finalement tout le reste, donc... Là, c'est communication, marketing, mais c'est aussi événementiel, c'est aussi aller chercher les sandwichs, c'est je fais tout et j'essaye d'être un peu le papa du truc, même si je suis le plus jeune, c'est moi qui dois avoir une vision lointaine sur tout ce dont on a besoin.
Ok. Alors, quelles sont les spécificités de Hacking Games comme maison d'édition ? Est-ce que c'est une ligne éditoriale particulière ?
Oui.
Est-ce que c'est...
Oui, on n'est pas à l'affût du prochain As d'Or ou du prochain gros buzz sur la BGG Hotlist. en général, encore une fois, c'est le côté humain de que Thibaut voulait, et donc c'est ce côté-là qui ressort. Donc nous, c'est un truc de base, il faut énormément d'humains dans le jeu. On demande même essentiellement de la simultanéité, si on peut avoir une phase de jeu simultanée, histoire qu'il y ait du partage dans ces moments-là. On demande des histoires fortes, ou en tout cas des jeux qui demandent de partager son histoire personnelle de manière forte. Donc ça fait pas mal de cases à cocher, et pour ça qu'il y a pas mal de prototypes, où parfois on nous envoie des mid-euros de 90 minutes avec des cubes en bois, où on regarde même pas, parce que voilà, ça rentre pas dans notre gamme. Mmh. Et puis ben nous, évidemment, le plus gros succès, ça a été Feelings avec un G en France. Et voilà, c'est ça qui marche, c'est ça qui nous fait vivre. Et c'est ça qui voilà, et c'est un jeu de partage sur les émotions. Ça représente bien le truc, ça représente bien l'ADN de la boîte.
Tu dis Feelings avec un G. Pourquoi il y a une autre un autre orthographe?
Oui, avec un K partout dans le monde.
Avec un K.
Mais d'accord. C'est le marketing francophone, le marché français qui a estimé qu'il fallait mieux avec un G, que le mot valise en plus en anglais était peut-être un peu spécial. C'est des histoires de marketing. Nous, on n'était même pas là, hein, c'est ce qu'on nous a raconté. Et voilà, donc ça, c'est la situation. Nous, on bosse en plus maintenant sur la version suivante, le standalone adulte de Feelings. Et donc, ben, on est en pleine négociation pour voir si on pourrait avoir un K partout dans le monde. Et donc, on doit essayer on travaille les commerciaux français dans le sens du poil pour leur dire. Mais les Français, maintenant, ils commencent à bien comprendre l'anglais, et Feeling, c'est quand même censé s'en sortir. Hein. Le jeu de mots entre sensation et lien, ils vont y arriver.
Et pour l'instant, on le trouve de toute façon sous le nom de Feelings, j'ai vu sur Internet.
Ouais, on le trouve un peu partout, ça dépend des boîtes, ça dépend des reprints, ça dépend de ce qu'il y a. Donc nous, s'il manque des boîtes pour la France et que la France n'a pas encore de reprint, ben on essaye de faire passer quelques cas parfois. Et à l'inverse, nous, on a des G qui traînent, si on doit donner quelque part, ben on donne un G parfois en Belgique. Donc les deux versions circulent et vu le look du jeu, de toute façon, qui est un G ou un K, il est assez facilement reconnaissable. Mm-hmm.
Vos jeux sont rangés en trois catégories, ouais. Stories in-game, Reloaded et Seriously Fun. Est-ce que tu peux nous expliquer?
Stories in-game, c'est vraiment la gamme de nos jeux propres, en fait. C'est ce qu'on édite nous-mêmes de A à Z, c'est le proto qu'on reçoit à papier carton, parfois même juste règle en PDF. Et c'est ce qu'on amène à la fin, comme n'importe quel éditeur. Reloaded, c'est vraiment nos localisations. Donc, autant oui. On aime bien mettre notre logo, autant on aime bien qu'on essaye de différencier ce qu'on fait. Et donc, y a des choses parfois qui sont pas tout à fait dans notre ADN, mais qu'on met quand même en avant parce qu'on aime bien, parce qu'on collabore avec certains éditeurs. Bon, c'est ce qu'on essaye de faire en général. Donc, voilà, on essaye de faire ça de manière correcte. Et puis, le Serious Fun, c'est vraiment du serious game pour entreprise. Ce qu'on n'a pas fait depuis quelques années en plus. Donc, il est encore là parce qu'on a participé à des choses avec l'Union Belge de Football, avec un parc animalier qui s'appelle Peridaisa, qui est chez nous et qui est un des meilleurs en Europe, ou avec même l'eau de Spa en Belgique, avec qui on a fait Aya, qui est un jeu de domino qui tombe en cascade. On avait collaboré avec eux sur ça. Donc oui, quand on arrive à faire du serious game, c'est avec entreprise, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait.
C'est plus une source de revenus en side, ou ça peut être
Ça dépend. Ça dépend vraiment. Parfois, c'est une idée de concept qu'on voit bien fonctionner d'un côté et qu'on a parfois du mal à faire fonctionner de l'autre. Mmh. Donc on se dit, ok, ça marcherait bien en serious game, mais ça marcherait moins bien avec une histoire où on n'arrive pas à plaquer un thème dessus, on n'arrive pas à... Parce que plaquer un thème, c'est pas forcément très naturel. Donc nous, on essaye de jauger, parfois même de redire, ben voilà, ce jeu-là, on l'a sorti en boîte, il est bien. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose pour une entreprise? Est-ce que ça peut amener quelque chose? Après, nous, on essaye toujours que ça soit fait correctement et pas juste trois tuiles mises dans un sachet. Donc, faut toujours arriver avec un projet et des choses appliquées. On a fait une gamme sur un an avec Deleuze, qui est un gros supermarché, l'équivalent de Carrefour ici. Et voilà, ça a pris du temps, mais ça a également fait tourner la société un moment parce que ils payent plus que la boutique qui va t'acheter un jeu classique.
Oui. Et ce que je veux dire, sinon, c'est des vrais jeux à part entière. Il y a certains éditeurs qui font juste des rethématisations de certains de leurs jeux pour, tu vois, les revendre dans certains cas.
C'est travaillé différemment. Si tu prends à l'époque où Acting Games n'existait pas encore tout à fait, Boo, qui est sorti chez BlackRock. Il est justement sorti chez Deleuze en plusieurs versions dans un truc qui s'appelle Test Off. Mm-hmm. Et qui a été décliné en fait en il y a 4 modules de jeu, c'est le même jeu de base et ils peuvent se jouer ensemble, mais t'as Test Off India et donc c'était sur des plats indiens, Test Off Belgium avec des plats belges, Test Off Italie avec l'Italie, mm-hmm. et Test Off China avec des plats chinois. Et donc tous les 3 mois dans le magasin, quand t'avais assez de points, tu recevais une boîte de jeux et donc ça encourageait les familles à jouer, à prendre des jeux, mais ça restait réfléchi au niveau du thème qu'on proposait et au niveau de ce qu'on essayait d'amener. On n'essayait pas juste de se dire on va faire tel jeu et on va le faire pour GDF ou pour EDF, ou je prends les exemples français. Hein,
merci, voilà. On comprend mieux.
On va pas faire, on va pas se dire ah, tiens, ce jeu-là, on va juste coller Veolia dessus et ça va marcher. Quoi.
Ok, alors donc tu parlais d'une suite à Feelings. Ouais. Donc tu disais c'est une suite adulte. Graphiquement, ça restera la même chose. Ça sera quelque chose de différent.
J'ai pas pris ma petite boîte et j'aurais dû te l'emmener comme ça, t'aurais pu voir. Mais non, c'est évidemment. En fait, à l'origine, ce Phoenix Révélation, comme on l'appelle, c'est un carnet qui a une boîte, qui a un deck de cartes qui a toujours existé dans le jeu de base. Il y a en classe, en famille et entre amis trois decks de cartes qu'on peut jouer différemment, mais qui fonctionnent de la même manière.
D'accord.
Et là, on avait ce deck adulte vraiment. Et quand nous, on est arrivé chez Acting Games avec mon collègue Mathieu, ben on s'est dit, ben c'est ça qu'on va relancer en premier. C'est le projet que Thibaut peut vraiment nous passer la flamme parce que lui l'a porté. Et donc, ben nous, on reprend ça, on le retravaille, on prend ses retours, on travaille avec Vincent Bideau et Jean-Louis Roubira. Et puis, on essaye de faire ça correctement pour que ça soit bien. Et donc, ben on en est arrivé maintenant dans la formule actuelle, donc qui est à quelques semaines de partir sans doute à l'impression. Ben un jeu d'ambiance vraiment simplifié à la limite par rapport au jeu enfant parce qu'on veut que ça soit ultra simple, ultra fluide à jouer sur du 16+, mais en essayant de garder le côté bienveillant et empathique de Phoenix et d'essayer d'éviter de faire tous ces exemples de jeux qui sont parfois un peu crasses. Ben nous c'est pas dans notre ADN, on comprend que les gens apprécient et jouent, donc nous on va quand même mettre du coquin dans Phoenix Révélation, mais c'est du coquin et ça s'arrête là.
D'accord.
Ça sera pas du crade.
Ouais, non, c'est vrai que ça se démarque d'une tendance, on va dire, un petit peu du marché, qui le but du jeu, c'est d'aller vers le trash. Vers,
c'est de la société, même, hein, en général. Hein. On nous vend de plus en plus de trash dans la société.
Non, mais... enfin, moi, je dirais pour le jeu de société, en gros, le but du jeu de certaines maisons d'édition, c'est vraiment de refaire un ersatz de Blanc-Manger Coco ou de Cards Against Humanity, si
oui.
On veut plutôt revenir au départ. Et chacun va avoir son Card Against Humanity, chacun va avoir son Roll and Write aussi. Et puis,
c'est la ligne d'équilibriste, le fil d'équilibriste sur lequel on marche. C'est-à-dire, dans nos situations, on essaye que nos cartes soient très équilibrées, d'avoir une coquine, une drôle et une sérieuse. Et après, il faut encore, une fois qu'on a fait ça, il faut penser au marché, parce que la Belgique, c'est pas la même chose que la France. On est beaucoup plus détendu sur certains sujets, on est beaucoup plus relax sur certains sujets. Quand on sait qu'on a des situations qui concernent la GPA, le port du voile, peu importe. Mais on sait que chez nous, ça pose pas problème. On en discute. La GPA, c'est accepté par tout le monde. Et puis, le port du voile, c'est...
Si tu peux dire la définition de l'acronyme.
Ah, gestation pour autrui.
Oui, voilà. Oui.
Donc voilà, le port d'enfant pour un autre, en Belgique, c'est pas encore légalisé, mais dans la société, c'est pas un débat.
C'est plus détendu. Et justement, donc ça serait des différences, tu dirais, entre un marché... français de France et un marché...
On a la chance, et c'est vraiment une chance d'être dans la Black Rock Family, et donc d'avoir essentiellement... On est le seul éditeur belge. Donc quand on va en séminaire, on va en séminaire en Auvergne, chez Black Rock, et on leur montre nos projets. Quand on leur quand on doit montrer des illustrations et avoir des retours, c'est évidemment quasiment qu'à des Français. Donc on a ce retour-là qui nous aime bien, parce que c'est le gros marché. C'est clair, il y a 65 millions d'habitants en France. Chez nous, il y a 4 millions de francophones en Belgique. Donc 4 millions de clés au potentiel, et si un jour on doit localiser le jeu et c'est bien parti pour que ça se fasse parce qu'on a des partenaires du premier Phoenix qui sont évidemment très partants pour ça, mais voilà, eux adapteront les situations à leur sauce parce que en Espagne, est-ce que tu peux avoir une situation où la Catalogne devient indépendante? Je ne sais pas, mais est-ce que eux voudront le mettre ou pas? Ça sera leur travail éditorial, mais donc nous on doit travailler pour que notre pack soit valable pour la France, pour la Belgique, pour la Suisse, pour le Québec.
Donc un travail d'adaptation qui finalement... On pourrait croire que même dans les différents marchés francophones, on aurait les mêmes choses, alors que c'est pas du tout le cas.
Mais on essaye que le paquet final soit identique, mais ça nous demande de réfléchir différemment. Et puis ça nous a demandé plein de choses. On sait que le look de Phoenix a pas mal tranché, que c'était du 50-50, j'aime bien ou je déteste. Et on le sait bien. Et donc là, on a aussi épuré, même si on a toujours cette envie, nous, de pas aller chercher, même si on reconnaît qu'ils sont excellentissimes, mais pas... Les illustrateurs habituels, on va pas aller faire un Phoenix avec Vincent Dutray ou avec Camille Chaussy, tout excellent qu'ils soient, parce qu'ils sont excellents. Mais on a envie d'avoir autre chose, une patte qui est pas rentrée dans le jeu. Donc nous, les illustrateurs qui sont là, ils viennent pas du monde du jeu. On a été les chercher à Seattle, aux États-Unis, qu'on avait envie de trouver autre chose. Donc on a été passer des journées sur ArtStation et à se dire, OK, quelle est la patte graphique qu'on veut? OK. Et donc nos options, elles ont été en Allemagne et à Seattle.
D'accord. Et en fait, tu travailles à distance, donc avec des graphistes qui te font...
On a un infographiste sur Bruxelles qui nous aide et qui fait le suivi pour tout ce qui est livret de règles, mise en page de boîte et ainsi de suite. Moi aussi, je chipote un peu là-dedans, donc je peux filer des coups de main quand il y a des urgences. Mm-hmm. Mais sinon, oui, on compte dans son mail, Skype, enfin comme n'importe qui, hein, finalement. Je crois pas que Vincent Dutray soit allé tous les jours chez Matago pour faire Treasure Island. Voilà, c'est juste une question de bonne communication. Après, là, oui, il y avait 9 heures de décalage horaire, donc quand on se lève le matin, soit un mail de Mike et de Lee qui sont nos illustrateurs et on le lit en vitesse et on leur répond et puis eux ils le voient 9 heures après parce qu'ils sont en décalage. ça nous ralentit pas tant que ça, et eux sont assez efficaces, et donc ça s'est très bien passé finalement. On est très content du résultat. Là, sur la première journée et demie de salon avec la journée pro hier, on a d'excellents retours sur la gueule visuelle que ça a, donc on est vraiment content.
Quelles sont vos autres sorties sur Cannes?
Phoenix Révélation, il sortira en juin, donc c'est évidemment une disponibilité à long terme, mais on a décidé de le montrer parce qu'on sait que le Phoenix a bien marché.
Donc déjà, on peut l'essayer sur place.
Ouais, il est sur place, il est présent en presse. Enfin, on a 5-6 boîtes en proto très avancées qui sont disponibles. Et donc, selon mon statut, on peut aller le chercher sur le stand ou en presse ou en pro, ou peu importe, en fonction si on est boutique ou journaliste. Mm-hmm. Et puis là, le reste de ce qu'on sort, c'est du Reloaded essentiellement. Donc nous, on travaille beaucoup avec Spielwiese, qui est un éditeur berlinois. Et donc là, on a pris chez eux Second Chance, qui est un roll and write, un flip and write, puisqu'on retourne des cartes, un peu dans la mécanique comme Welcome, et ultra simple, ultra zen, que nous, on propose de faire en couleur, parce qu'on trouve que c'est plus détendant et c'est plus l'activité coloriage ultra zen du salon, à la limite. Et puis,
Uwe Rosenberg.
De Uwe Rosenberg, exactement, illustré par Max Prentice, qui est un Australien, donc on n'est pas les seuls à aller chercher nos illustrateurs à plus de 15 000 kilomètres. Donc c'est un petit, c'est verdoyant, et c'est des morceaux de puzzle, comme souvent avec Uwe, finalement, après Cottage Garden, Indian Summer, et puis Spring Meadow qui va arriver. Et puis là, on sort aussi, Farben, qui veut dire couleur en allemand, pour ceux qui n'ont pas fait allemand LV2. Et donc voilà, c'est un jeu de basique de couleurs, mais surtout de communication et de comment je raconte une histoire pour marquer un esprit. En fait, l'autrice est française. Mm-hmm. Elle s'appelle Apolline Jove et elle était à Berlin, elle prenait des cours d'allemand. Et sa prof lui a proposé un exercice justement sur cette base de couleurs. C'était pas exactement comme ça, mais elle s'est finalement dit « Ah ben, je pourrais en faire un jeu ». Et puis elle a fait un petit truc, elle a été le présenter dans le bar, parce que Spielwiese, c'est aussi un bar à jeux à Berlin, avant tout. Elle a été le présenter et ils l'ont pris. Et donc nous, ils nous l'ont proposé, parce qu'on est très proche d'eux, on les connaît bien, et on travaille avec eux sur beaucoup de choses. Et on s'est dit « Bah oui, nous, si on l'avait reçu aussi en proto, on l'aurait sans doute pris ».
Ouais, c'est clair.
Donc c'est typiquement dans notre ADN, et donc finalement on l'a pris, on l'a traduit, on a adapté au marché français, et puis voilà.
Tu peux nous expliquer rapidement comment ça se joue, ce que c'est ?
Donc il y a un paquet de, il y a une grosse soixantaine de cartes mots dans le jeu, recto verso, donc il y a 125 possibilités je crois environ, évidemment il faudra que ce soit pair recto verso, et donc chaque joueur, juste donc c'est 3-5 joueurs sur une demi-heure environ, reçoit 12 cartes avec 11 couleurs, donc du blanc, du noir, du vert, de l'orange, du mauve, du rose, et une carte multicolore qui sert à représenter justement toutes les couleurs. C'est pas un joker pour représenter du noir, ça va vous servir vraiment à jouer un arc-en-ciel, par exemple.
D'accord.
Et donc le joueur actif choisit un mot, par exemple, entre dégoût et joie, il en met un des deux, il le pose sur la table, et donc quelle est pour vous la couleur du dégoût ? Tous les joueurs posent ça sur la table face cachée, et puis une couleur de leur choix face cachée, et puis un par un, ils vont révéler et raconter leur histoire. Donc ça, ils vont le faire 10 fois. C'est une mécanique qui est assez instinctive finalement, parce qu'un mot, ça nous évoque toujours quelque chose assez automatique. Et donc après, la couleur qui ressemble à ça, si on vous dit humour et que vous aimez bien l'humour noir, vous allez sortir le noir. Si vous aimez l'humour pipi caca, vous avez le jaune et le brun.
Donc faut choisir une couleur qui a un lien avec le mot exactement. Au centre de la table.
Et donc, vous allez réfléchir à comment c'est le plus facile pour les autres à se souvenir, parce que ça va devenir un jeu de mémoire dans la deuxième partie du jeu. Comment c'est le plus drôle ou comment c'est le plus marquant. Ça peut être du personnel, ça peut être du fictionnel, ça peut être n'importe quelle discussion. Et puis, une fois que vous avez fait tout ça, vous reprenez les cartes couleurs, vous les mettez face cachée, vous les recouvrez du mot, et vous faites ça 10 fois. Et ensuite, en fonction du nombre de joueurs, il y a une grille qui vous dit vous devez chacun prendre 3 paquets, chacun prendre 2 paquets. Donc le joueur actif donne un paquet dont il ne veut pas, c'est souvent le cas, à son joueur à côté, à son adversaire à côté de lui. Il étale les cartes qui ont tous un dos différent, donc on sait que la carte qui a un M stylisé, c'est Fête de Noël par exemple. Et donc je dis Fête de Noël, toi, t'aimes bien l'humour noir, c'est vrai, je m'en rappelle, tu m'as raconté cette histoire, je retourne ça, je prends 2 points, t'en prends un parce que tu as fait une histoire assez marquante pour que je m'en rappelle. Et donc ça va se scorer comme ça. Donc si on est à 3, on va chacun avoir 3 paquets de cartes qu'on va devoir se souvenir. Il y a la possibilité d'aller chercher des indices mais de gagner moins de points. Il y a aussi la possibilité de se planter royalement comme dans tous les jeux et d'en prendre 0.
Mais c'est vrai qu'on voit tout de suite la filiation, je dirais, avec Feelings justement, où t'as une notion d'émotion aussi qui est transmise. On a des questions très rapides en fait par rapport au roll and write justement, mais on revient un petit peu sur ce qu'on avait déjà dit, mais c'était juste de se poser la question de pourquoi avoir un roll and write. Est-ce que c'était la volonté d'avoir un roll and write?
C'était pour faire plaisir à Cyrus.
Ça peut être ça.
Il est ravi.
Je suis sûr qu'il en sera ravi de l'entendre. Ou alors c'était avoir un un Rosenberg, à voir est-ce que c'est...
En fait, en général, quand on travaille comme ça avec Spielwiese, on se voit...
Ou une obligation contractuelle.
Il n'y a pas de contrat entre nous, donc ça, c'est assez facile. On se voit 3-4 fois à l'année, et sur SN, sur Cannes, après parfois, eux se voient sur des salons export un peu plus, voilà. Et donc, il y a Damien de BlackRock, Damien Falkuska, là, qui gère aussi les locaux, et donc, on se voit ensemble. En général, il nous file deux boîtes, nous, on en ramène une à Bruxelles, lui, il en ramène une, on fait tourner, et donc, on voit si ça marche, si ça a un intérêt, si ça... Damien, il a aussi une autre activité avec Monsieur Damien, donc il fait découvrir des jeux dans des écoles, dans des contextes différents. Donc lui, il a son auto-entreprise, comme on dit en France. Et donc ça lui permet de faire découvrir ça. Et donc on voit si ça marche ou pas, s'il y a un retour public positif. Et puis si on estime que ça vaut la peine, que ça vaut la peine financièrement et d'un point de vue de l'intérêt sur le temps qu'on va mettre dedans, parce qu'on ne gagne pas énormément sur des localisations, on le sait tous. Si c'est évidemment dans notre gamme, mais voilà, là c'était à la limite vraiment sur la frontière, mais on l'a pris. Et puis, si tu regardes le futur, ça dépend. On va pas tout prendre, mais on va prendre des trucs. Spring Meadow, donc le troisième de la fameuse trilogie champêtre de Uwe Rosenberg. On le prend, mais parce qu'on a fait les deux premiers, pas sous notre nom, en fait.
D'accord,
les deux premiers,
d'accord.
Ils ont été faits par nous, mais il n'y avait pas le logo Acting Games. Et on a juste mis BlackRock, parce qu'on a juste fait la traduction, et puis c'était réglé. Spring Meadow, on a mis un peu plus d'attention dedans, un peu plus de travail dedans, donc on estime qu'on doit mettre notre logo. Puis tu regardes la suite, il y a Subtext de Wolfgang Warsch qui arrive en... qui arrive bientôt en anglais et qui est déjà sorti en allemand. On va le faire parce qu'il est bien. Donc et parce qu'il correspond clairement à ce qu'on fait. Donc on le prend. Mais s'ils viennent nous proposer un jeu de pause d'ouvrier de 45 minutes par joueur, on va les regarder et leur dire mais vous nous connaissez bien. Par contre, ça ira peut-être ailleurs chez BlackRock. Faut peut-être se poser la question, est-ce que ça ira à la boîte de jeu, est-ce que ça irait chez Ketchup par exemple.
Justement, cette relation avec BlackRock, vous essayez de l'entretenir sur ce qu'on peut vous proposer, vous allez le proposer à BlackRock.
Mais nous on a une chance, c'est-à-dire que la partie export de BlackRock, donc Thibaut bosse sur Bruxelles. Donc ils partent de Bruxelles et donc il y a Thibaut Quintan, c'est Hervé Place qui gère ça. Ils sont sur Bruxelles, donc on est tout le temps avec eux. Donc quand un éditeur vient présenter quelque chose à l'export, nous, les gens de BlackRock, les catch-up, les banquises, les blâmes, on les voit. Donc on joue avec eux à leur proto, on va boire un verre parfois, on les voit régulièrement. Donc nous, on a encore un peu plus que les autres, peut-être que tes familles. Et puis BlackRock essaye de faire cet effort-là. Là, on est tous logés plus ou moins dans la même zone, donc on peut se voir. On va en séminaire une ou deux fois par an, où on se voit tous avec les commerciaux français de BlackRock et où on passe 3-4 jours en Auvergne à ramener tous nos projets futurs et puis finalement on se les montre, on y joue, on se dit ok ça vaut la peine, ok ça vaut pas la peine, est-ce qu'il faut changer pour le marché français, est-ce qu'il faut changer la cover, est-ce qu'il faut changer le titre, est-ce qu'il faut trouver un point commercial différent et donc à partir de ce moment-là on fait des retours, c'est toujours comme ça de toute façon dans le monde du business et encore plus dans le monde du jeu, on envoie un mail au mec de Spielwiese qui nous répond, on transfère l'information aux gens de BlackRock qui nous disent oui mais, puis on envoie ça à un illustrateur qui nous dit oui peut-être et donc ça va aller dans tous les sens pour qu'au final on ait des projets qui se tiennent la route. Là sur Subtext on se pose la question de la cover, on se pose la question du titre. Est-ce que sur le marché français Subtext ça sera assez évocateur, est-ce que la cover qui est assez fantasque, vous pouvez taper ça sur Google Images, elle est assez fantasque, est-ce qu'elle va marcher sur le marché français, en tout cas elle attire l'œil, elle est différente des autres, mais est-ce qu'elle va marcher, c'est plein de questions qu'on se pose hein. Sur Farben on s'est posé la question, c'est ultra blanc, ultra flat et il y a une mode qui est pas forcément très saine de la boîte blanche depuis Tokaido, mais nous on trouve que le jeu le mérite, on a réfléchi est-ce que ça va à notre jeu, on s'est pas juste dit ouais, on va faire une boîte blanche parce que c'est cool.
Ok, et ça, il y a pas de moyen de le tester en avance ou ce genre de choses. Tu montres à ta femme et puis tu dis.
Oui, c'est ça. Non, mais oui, c'est ça. Moi, j'ai mon groupe de joueurs. Enfin, moi, j'ai joué pendant des années avant de bosser dans le monde du jeu. Donc, je prends l'exemple des illustrations de Feelings Révélation. Ben, les premières images, les premières rushs des 7-8 premières émotions sur les 18 qu'il y aura dans la boîte qu'on a reçues, j'ai un genre de gros groupe de discussion avec tous mes potes où il y a tout et n'importe quoi, les blagues, des vidéos YouTube, les chansons, peu importe. Je leur ai envoyé les images. J'ai dit. Et voilà, je prends vos retours. Est-ce que ça évoque cette émotion pour vous assez ou pas? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Est-ce que vous voyez trop de sourcils? Est-ce que voilà. Et puis ça nous demande plein de trucs. C'est plein de réflexions sur est-ce qu'il y a assez de blacks? Est-ce qu'il y a assez d'Amérindiens? Est-ce qu'il y a assez de personnes d'origine orientale? Est-ce qu'il y a assez de personnes androgynes? Sur Feelings Révélation, c'est un gros travail qu'on a fait pour que tout soit représenté. Et je suis certain qu'un jour on va nous reprocher parce que ça n'est pas bien fait, alors qu'on a mis des heures là-dedans.
C'est super compliqué en même temps.
Bah oui, et c'est pour ça. Mais après, il faudra juste qu'on nous on dira, on a fait les efforts qu'on pouvait. Là, par exemple, je prends l'erreur sur moi, par exemple, sur Farben, sur la boîte, il écrit auteur, sans e. C'est
D'accord.
quelque chose que je ne dis pas, que je ne prononce pas. On était dans la course, on a tapé auteur, Apolline Joffre. Dans toute ma com, c'est autrice. Ou auteur, je lui ai demandé, elle m'a dit, je préfère auteur, donc sur les kakémonos qu'on a mis jouer avec l'auteur, ben, on a mis auteur. Mais voilà. Donc finalement, c'est ce qu'on a fait au final. Mais par contre, ben oui, parfois, on fait des petites erreurs. Ou parfois, on oublie des choses. Est-ce que j'ai mis un Inuit dans Phoenix Révélation? Malheureusement, non. Mais je peux pas satisfaire tout le monde. Par contre, oui, on a essayé qu'il y ait deux, trois personnes afro-américaines, on a une personne avec un voile. C'est aussi une question qu'on s'est posée. La France, on sait que c'est un débat qui est un peu plus prégnant qu'en Belgique. Donc, est-ce qu'on se pose la question? Où est-ce que ça va? Est-ce que ça passe? C'est plein de questions qu'un éditeur se pose. C'est super, super compliqué. Et puis, à un moment, nous, on tient nos positions aussi, hein, en tant qu'on a des valeurs précises. On sait ce qu'on veut. On est plutôt à tendance, relations humaines, assez écologique. On est un des, on doit peut-être être les derniers peut-être à produire quasiment tout en ce qu'on fait en Europe. Donc voilà, là sur Phoenix Révélation, on nous a demandé un price point précis. C'est compliqué de le faire ailleurs qu'en Chine pour ce price point précis. Mm-hmm. Mais on est quand même, ça fait des semaines qu'on travaille avec nos imprimeurs pour que ça rentre. On se dit pas fuck, je vais aller en Chine. Après, on a un ou deux projets dans le futur où on va peut-être être obligé d'aller en Chine parce que certains matériaux sont très chers.
Du plastique.
Du dé. Simplement. Du dé, ouais. Là, on veut faire du dé. On veut faire un jeu qui est essentiellement à base de dé et qui va arriver à l'été. Chine. On peut pas parce que le coût de prod d'un jeu, monte direct en Europe à 10-12 euros alors que c'est un jeu de dé ultra simple qui va marcher très bien. Mais on peut pas le vendre à 40 euros. On peut pas vendre 20 dés ou 24 dés à 40 euros.
Ensuite, ça peut arriver aussi que finalement, tu leur demandes de te faire les dés et puis ils te font les dés, mais au final, eux, ils les font produire en Chine, ils les font venir et puis c'est...
Mais oui, c'est ça, parce que nous, endroit, on quoi. Fait attention de faire des dés en bois, FSC, bio, machin. Ouais. Enfin, Thibaut, on peut le dire, hein, il est végétarien, donc on fait attention à tout ça, on fait attention à plein de choses, à notre empreinte écologique sur nos jeux et beaucoup de choses du genre. Peut-être qu'on passera au train si on doit aller en Chine. Et on aura des problèmes, peut-être, comme certains éditeurs ont parfois, de trains qui déraillent, mais on assumera. Et donc voilà, là, ce jeu-là, on y croit très fort, mais on va devoir passer en Chine, ça nous mettra une petite douleur au cœur, sans doute.
Bah, c'est super d'avoir un éditeur, en tout cas, qui a une âme,
Ça, je crois que ça a fait partie des choses à l'entretien d'embauche, parce que l'entretien d'embauche, on les a passés en août et en septembre, mon collègue et moi, donc, je pense qu'il a d'abord visé sur l'humain avant de viser sur les compétences, même si on les a, les compétences, je crois, en tout cas j'espère. Mais en tout cas, je sais parler correctement et j'espère défendre nos idées. C'est de l'humain avant tout, Acting Games, ça le sera toujours. On vous sortira pas un jeu ultra solitaire d'optimisation dans votre coin. Il y a que Second Chance pour le moment où on s'est permis d'avoir un petit peu plus de jeux solitaires, mais parce que il marchait et que c'était spielviseux et qu'on l'a fait aussi pour la bonne entente. Ils nous ont pas forcé, mais on sait que ça va se faire, que ça va partir, c'est à la mode, et on n'en fera pas à Second Chance épisode 2. Là où Farbonne, par exemple, apparemment, ils sont en train de travailler sur des choses pour étendre le truc, donc si ça marche bien en France, il y aura possiblement d'autres versions, d'autres thèmes, et ainsi de suite.
Comme vous pouvez faire sur Feelings.
Ouais. Mais sans doute avec un travail moins de rénovation graphique, de rénovation de manière de jouer totale, parce que sur Feelings, on passe d'un jeu compétitif, et là on passe à coop, on passe de 3 à 8 en termes de joueurs, on passe à 2 à 8 pour pouvoir y jouer en coupe, parce qu'on pense que c'est des questions parfois qui sont très importantes, très intéressantes en tout cas à jouer en couple. Mm-hmm. Donc on fait un travail éditorial quand même, on se fait pas juste... sinon, pour le même prix, on vous mettait juste un deck rouge dans un film plastique et vous disait voilà, ça vous coûte 4 euros et nous on se faisait un peu d'argent dessus et c'était réglé.
Mm-hmm. Tout à fait. Est-ce que tu veux nous parler d'autres jeux que vous auriez ou...
Je crois que j'ai plus ou moins tout mentionné. Enfin, je pense en tout que cas, oui. Là, ouais, on ouais. arrive sur Spring Meadow en avril, Subtext à l'été. Et puis après, c'est un petit jeu de... Le jeu de dés, c'est, on peut le dire, hein, de toute façon, c'est Association d'idées, c'est le nom de travail, c'est un jeu de mots.
Uh-huh.
C'est un jeu de Thierry Seyss, qui était d'accord. dans le jury jusque cette année,
uh-huh.
à l'Asdor, et Dave Hirschfeld, qu'on connaît bien. Donc les réunions sont toujours un peu fantastiques, mais voilà, donc c'est un petit jeu d'association de mots qui marche très bien, très rapide, très très frénétique, qu'on essaye, voilà, on se dit que ça, on trouve qu'il marche bien dans tous les groupes, il fonctionne très bien, donc voilà, on se reverra l'an prochain, il sera à dispo à Cannes clairement, puisque on espère le faire sortir au BGF, c'est un jeu belge avec un auteur belge, donc sur le Brussels Game Festival fin août, il sera là, à mon avis, les boîtes seront là.
Excellent. Moi, j'avais une autre question. Est-ce que tu connais le jeu Wavelength?
Oui. On l'a vu passer sur Kickstarter.
Est-ce qu'il y a encore? Est-ce que vous allez l'éditer ou est-ce que vous cherchez à l'éditer? Enfin, le localiser.
On s'est posé. on se pose la question, on s'est posé la question, enfin on en a parlé, en tout cas on l'a, c'est moi qui l'ai repéré sur Kickstarter, je l'ai montré à mon collègue à l'édition, je lui ai dit, t'as vu, en plus on a nous dans nos tiroirs potentiellement un genre de truc aussi avec des, pour le moment c'est un proto avec des boutons de Fender, tu vois, donc ouais. Une jauge de 0 à 10 et des trucs comme ça, donc on a aussi des protos qui traînent et qu'on veut travailler de ce point de vue là, qu'on a quasi signé aussi. Et donc on a vu ça, on l'a fait tourner et on sait que c'est du Varch, mais on voilà, on, ça fait partie des choses dont on sait qu'on doit parler avec Spielwiese. Est-ce que pourquoi eux ne l'ont pas? Est-ce que c'est parce que ça s'est pas fait? Est-ce que c'est pour une raison ou l'autre? Et puis est-ce qu'on prendra contact avec eux? Je t'avoue qu'au jour d'aujourd'hui, on n'en sait rien. On était tellement dans le bouillon avec Second Chance, Farben, Feelings Revelation qu'il faut toujours finir, plus association d'idées qu'il faut avancer. On se pose pas la question tout de suite, donc au moment où les backers seront fulfilled, comme ils disent, on sera pas là. Après, si le jeu marche bien, il est clairement, il peut rentrer dans notre gamme, dans l'esprit.
D'accord.
Donc, c'est Wolfgang, si tu m'entends, viens me voir.
Très bien, on lui fera passer le message. Ben, merci beaucoup François d'être venu, c'était très intéressant. Ça mériterait peut-être un plus long format.
Merci voilà. De m'avoir invité, puis toujours disponible. Hein. Enfin, c'est un chouette projet que vous avez, donc c'est intéressant de le soutenir d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à tiper si vous m'entendez. Je vais peut-être y arriver à le faire un jour.
Super. Bah, chers auditeurs, chères auditrices, si cette interview vous a plu, partagez-la. Et voilà, donc rendez-vous sur notre page Tipeee si vous le souhaitez. On se retrouve très vite sur ProxyJeux pour une autre interview, un autre format. Et à bientôt. Et surtout,
jouez bien.